Claude, on parle
d'une inspiration. Et l'inspirateur, c'est Sylvain Tesson qui vient à peine de quitter ce studio. Et oui, encore lui. Tesson qui avait raconté dans ses chemins noirs le périple pédestre qu'il avait mené du col de Tende à Cherbourg quand il marchait pour récupérer son corps en vrac. Eh bien, c'est en lisant Tesson que Régis de Pompignan, 80 ans, a lui eu l'idée de marcher de Nîmes à Brest. Il est passé ce week-end par le Puy-en-Velay, l'occasion pour l'éveil de la Haute-Loire de regarder un gaillard qui a balisé son itinéraire par les antennes locales des Petits Frères des Pauvres, association charitable qui combat la solitude des vieux et dont il est bénévole. Régis Parche marche pour nous montrer que les aînés sont pleins de richesses et de ressources et de projets un peu fous. Il l'avait dit, démarrant son périple à midi libre, il le redit à l'éveil, il faut à tout âge rêver et marcher. Dans Libération, vous rencontrez deux voyageuses qui, elles aussi, marchent, mais c'est pour apprendre Paris, cette ville où elles sont réfugiées. Voici Yana, ukrainienne de 20 ans, qui, sous les bombes russes, s'est souvenue d'un voyage dans notre capitale dont elle avait aimé autrefois l'architecture et les gens. Elle dit désormais que Paris est faite pour son âme, elle nous restera. Et puis voilà Vénus, 27 ans. Elle, venue d'Afghanistan, en août 2021, elle est allée à l'aéroport de Kaboul, dissimulée sous un long voile, pour échapper aux talibans qui lui auraient réservé le plus funeste des sorts. Penser une féministe. Vénus a choisi Paris parce qu'elle avait étudié nos philosophes, nos peintres, nos écrivains, parce qu'elle nous voit comme un peuple d'intellectuels. Êtes-vous ému de voir ce que nous représentons et vous sentirez-vous honteux en lisant à quel point dans Libération nous avons été plus rudes et rétifs dans l'accueil envers Vénus l'Afghane qu'avec Yana? Mais qu'importe, puisque les voilà toutes deux au soleil de Paris au printemps, chacune prend des nouvelles de l'exil de l'autre. Nos immeubles haussmanniens sont plus petits en vrai qu'autrefois dans leur imagination. La rencontre de ces deux femmes est en tout cas plus féconde que le rude non-dialogue qu'organise l'Obs entre la féministe macronienne Marlène Schiappa et la féministe insoumise Clémentine Autain. La sororité ne surpasse pas la politique. L'Obs accompagne la nouvelle union des gauches avec une curiosité encore hésitante. On nous présente des visages de cette union. Stéphane Ravaclet, le boulanger qui fit une grève de la faim pour son apprenti migrant, ou Rachel Keke qui mena la grève des femmes de chambre d'un hôtel Ibis à Paris. L'Obs titre son édito « Et si c'était lui ?», référence à une vieille couverture du journal, au temps où il était l'organe central de Ségolène Royal. L'Obs sera-t-il compagnon de route du mélenchonisme ? À l'opposé, Le Point méthodiquement dépeint Mélenchon en autocrate, et dans un papier malin, Sébastien Le Foll se demande pourquoi tant de gens intelligents diplômés suivent, je cite, « un petit tyran offensif aux harangues séditieuses ». Eh bien, parce que les diplômés, les universitaires, n'admettent pas que dans l'économie de marché, des gens moins éduqués gagnent mieux leur vie qu'eux. Alors, Mélenchon serait la solution du mérite offusqué.
On parle aussi d'un médecin.
Et Le Monde nous ramène des archives de la République l'incroyable aventure du docteur Louis Tonnelot, qu'en 1957, les services secrets de la France, son pays, voulurent abattre. Parce que dans l'hôpital qu'il dirigeait à Oujda, au Maroc, à la frontière de l'Algérie, il soignait tout le monde, et notamment les combattants algériens du FLN indépendantiste. Un soir, une bombe explosa sur la terrasse de la maison de Tonnelot. Oh, il n'y eut pas de mort, nos barbous étaient maladroits. Mais il reste cette volonté qu'a eu la France de tuer un Français. Louis Tonnelot était un Français d'Algérie, il avait combattu avec les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était gaulliste, mais hostile au colonialisme, il comptait aussi dans sa belle famille des partisans de l'OAS, imagine-t-on les déchirements d'alors. Il fit carrière au Maroc, il soigna le roi Mohamed V, il finit ses jours en France, ce pays qui avait tenté de l'assassiner. Dans la vie, vous allez lire une autre aventure française copieusement racontée et qui se joua dans cette Afrique désertique que nous pensions nôtre. L'incroyable vie de Charles de Foucault, qui devient cette fin de semaine un saint de l'Église et qui, sous la Troisième République, traînait une existence de viveur, paillard et cultivé avant de trouver Dieu dans le dénuement d'une vie de missionnaire ermite et dans l'amitié de nomades touareg avec lesquels il arpentait les pistes du désert. La marche toujours. Il mourut assassiné dans son ermitage en décembre 2016 et l'officier français qui l'enterra trouva les manuscrits de ses poésies touareg. Ton odeur que je sens entre mes seins jette le feu au-dedans de mes os. Le saint au désert ne chantait que l'amour.
Et on parle enfin d'un transfuge.
Un transfuge politique, lui aussi d'autrefois. Dans Le Figaro, où fièrement de droite, Eugénie Bastier tisse un éloge de Jean Co, écrivain justement oublié, mais que Fabrice Lucchini célèbre en scène. Il était fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage. Par sa culture, il fut secrétaire de Sartre et puis quitta la gauche pour être une plume de droite. Par élitisme, dit Bastier, par goût du style, est-il plus noble raison? moins noble peut-être, mais intéressante est la sollicitude qu'accorde le même Figaro sur une page aux Français expatriés qui sont allés au Portugal, en Hongrie, en Grèce, en Israël pour fuir notre pays qu'ils ne reconnaissent plus. Dans Ouest-France, je lis qu'en Crimée annexée par la Russie, la guerre en Ukraine a soulagé des territoires assoiffés, car en conquérant le sud de l'Ukraine, l'armée russe a pu rouvrir un canal d'irrigation du temps de l'Union soviétique. Quel paradoxe que cette bonne nouvelle. Ouest-France me dit aussi, comme le Télégramme, qu'un groupe breton, The Wacky Jugs, qui navigue entre Douarnenez et Pontivy, a remporté aux États-Unis à Memphis le titre mondial du blues. Enfin, dans le Figaro à nouveau, je lis, c'est Roger Leloup qui le dit, créateur de la plus cool des japonaises, Yoko Tsuno, que Hergé, l'auteur de Tintin, qui était son ami, n'a jamais été heureux. Ça me désole.
Merci Claude pour cette revue de presse.